C'est quoi ce petit sourire ?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite ?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi.
Et c'est avantageux fiscalement ?
Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite.
Top !
Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
« 1524 », vous vous dites « oh là là, un saut d'un demi-millénaire en arrière », mais vous allez voir, ça se fait très bien. En 1524, ça fait 30 ans que Bayard sert la royauté. Il s'était d'abord battu sous les ordres de Charles VIII en Italie. C'était le voyage à Naples de 1494. Et puis, il y a eu le règne du roi Louis XII. Et là, on a vu Bayard combattre en Navarre, notamment la bataille de Ravenne en 1512. Il sera ensuite parmi les vainqueurs de Marignan. Ai-je besoin de vous le dire ? Je cite à ce propos Laurent Vissière. Bayard agit sans haine, sans passion, mais il se distingue en tout lieu par sa bravoure et son panache. Lors de la guerre de Naples de 1501 à 1504, il tue ainsi en champ clos Alonso de Sotomayor, un capitaine espagnol qui l'avait insulté. Peu après, il fait partie des 13 gentilshommes français affrontés 13 espagnols toujours en champ clos. Et c'est sur de tels hauts faits, dénués de toute incidence militaire, que le jeune homme bâtit sa renommée. Très vite, il devient un redoutable meneur d'hommes. Est-ce que on doit préciser que Bayard a été blessé plusieurs fois? Il a d'ailleurs failli mourir par le tir d'un boulet en 1512. Ça n'en est pas moins un homme qui, très simplement, partage le quotidien des camps avec beaucoup de simplicité. Il est, c'est par ailleurs un bon soldat qui ne discute pas du tout les ordres des supérieurs. On le retrouve dans le nord de l'Italie en ce printemps 1524 qui nous intéresse. Ça fait 2 ans et demi à l'époque que la France s'est engagée dans une nouvelle guerre, une de plus, avec seulement le soutien du roi de Navarre. François Ier fait face à toute une coalition qui rassemble le Saint-Empire de Charles Quint, son grand ennemi bien sûr, mais aussi l'Angleterre, les États pontificaux et progressivement le théâtre des hostilités s'est déplacé vers la péninsule italique. La France enchaîne les déconvenues. Il y a cette bataille de la Bicoque en avril 22 où les Français ont été chassés de Lombardie. Ils ont perdu Milan, qui était française depuis 1515. Les Vénitiens, qui sont les alliés des Français, ont eu la mauvaise idée d'aller signer une paix séparée. La Provence est menacée. Enfin, il y a ce prince français dont je vous parlais il y a quelque temps, le connétable de Bourbon, première épée du roi de France, qui va trahir son cousin François Ier et aller se mettre au service de l'empereur. Et en face, les coalisés sont donc très supérieurs. Ils sont plus nombreux, ils ont beaucoup plus de munitions, d'argent. Charles Quint envoie 12 000 lansquenets aux princes italiens. Ce sont des soldats qui viennent donc des contrées germaniques. Bref, c'est une déconfiture pour l'armée française. Le premier responsable de l'échec, c'est le chef de l'armée en question, c'est l'amiral de Bonnivet, qui est un grand ami du roi François Ier et qui accumule les erreurs depuis le début. On dirait que Bonnivet est incapable de vraiment bien jauger les forces de l'adversaire. Il les sous-estime systématiquement. Et en plus, il ne s'occupe qu'occasionnellement du ravitaillement de troupes qui sont maintenant affamées, mal vêtues, épuisées par toutes sortes de maladies, par des blessures aussi qui ont été mal soignées. La plupart des chevaux sont morts, ceux qui sont encore debout sont mal nourris. Enfin, voyez un peu. Bonnivet refuse qu'on discute néanmoins les ordres qu'il donne et il ne veut pas entendre parler de Bayard qu'il fait exprès de cantonner dans un rang subalterne. Et pourtant, Bayard est quelqu'un de très important. C'est un homme sur lequel il faudrait compter normalement.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
D'où vient-il, ce Bayard? Il est issu d'une vieille famille de la petite noblesse savoyarde. Il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir lieutenant général du Dauphiné. Un peu une ascension à la du Guesclin, si vous voulez. Bayard a accepté de suivre Bonnivet. Il obéit à ses ordres sans ciller, même quand ce dernier lui commande de s'enfermer dans une petite ville qui s'appelle Robeco sul Naviglio. On n'est pas loin de Milan. Et il a seulement autour de lui 200 gendarmes. Bayard. Il réplique qu'il lui faut beaucoup plus d'hommes, seulement Bonnivet ne veut rien savoir. Et le ton monte avec grosse fâcherie, nous dit la chronique. Bayard finit par céder et donc il occupe cette petite ville, là, ce Robeco sul Naviglio. Cette nuit-là, alors qu'il est déjà bien fatigué et très malade, Bayard va sombrer dans le sommeil. Il est toujours dans son armure, hein, quand même. Il ne quitte pas son armure et soudain, des guetteurs sonnent l'alarme. Don Fernando de Avalos, le marquis de Pescara, un des principaux capitaines de Charles Quint, vient en effet de lancer ses hommes contre les murailles. Et alors qu'on entend déjà les tambours espagnols dans les rues de la ville, Bayard se lève d'un bond. Il sonne la retraite. Sauvons les personnes s'il est possible, dit-il. On se replie sur Abbiategrasso, où campe le plus gros des forces de l'amiral de Bonnivet. Bayard est furieux contre ceux qui l'ont amené à ce qu'il considère comme une véritable ruine. On peut dire que là, les deux hommes, Bonnivet et Bayard, sont prêts à en découdre. Hein. Ils pourraient se battre à l'épée. Bonnivet attend les renforts. En effet, une armée de 8000 Suisses est en route, tandis que les 6000 lansquenets de la Ligue Grise doivent attaquer de leur côté. Les deux armées, pour autant, ne vont pas réussir à faire la jonction, comme on dit, à se rejoindre. Et Bonnivet, qui est pressé par Pescara, décide de battre en retraite, d'enjamber la rivière qu'on appelle la Cesia, on est en pleine nuit. Hein. Il fait jeter un pont, sauf qu'il y a un orage avec une espèce de tempête, les chevaux perdent de pied, vont se noyer dans le courant, on n'entend même plus les ordres, on ne reconnaît même plus les bannières. Est-ce qu'on peut parler d'une débâcle? Oui, c'est une débâcle. Bonnivet, qui a réussi à atteindre l'autre rive avec une partie de ses hommes, reçoit un tir d'arquebuse à l'épaule, il est blessé et il fait appeler à ce moment-là Bayard auprès de lui. « Monseigneur de Bayard, lui dit-il, voyez mon état. Je vous remets le commandement de toute l'armée du roi. Au nom de l'honneur de la France, je vous conjure de sauver l'artillerie et les enseignes que je consigne entièrement à votre valeur et à votre bonne conduite. » Et Bayard lui répond « Monseigneur, je voudrais bien que vous me fissiez cet honneur en quelque occasion, la fortune nous fut moins contraire. N'importe, je vous donne ma foi de les défendre si bien qu'elles ne tomberont pas de mon vivant au pouvoir des ennemis. » Début de la deuxième symphonie d'Alexandre Borodine par l'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart sous la direction de Carlos Kleiber.
Vous écoutez Radio Classique.
le pauvre Bayard se voit confier une mission dont on doit pouvoir dire qu'elle est impossible à mener. Il est à la tête d'une armée décimée avec des régiments insuffisants, des soldats totalement découragés. Et puis on n'est pas ravitaillé, quand je dis ravitaillé, en vivres bien sûr, mais aussi en munitions. La seule solution pour Bayard, c'est de se retirer, de se replier. Il expédie sur la ville d'Ivrea toute l'artillerie et les bagages, comme on dit, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de lourd dans l'armée, et lui-même reste à l'arrière-garde. Il est là avec une poignée de Suisses en espérant ne pas avoir trop vite à défendre les arrières. En matière de repli, vous allez me dire qu'il s'y connaît, Bayard, puisque 20 ans plus tôt, en 1504, sur le pont de Garigliano, il avait seul tenu tête aux Espagnols et permis à l'armée française de se regrouper sur l'autre rive du fleuve, ce qui avait permis d'éviter un véritable massacre. Ça a été le grand exploit, ça a été le grand moment de la carrière de celui qu'on appelle le chevalier Bayard. Alors malgré la fatigue, la faim et le peu de gens qui sont autour de lui, Bayard va réussir parce qu'il est incroyable, parce qu'il est courageux, il réussit à rendre un peu d'ardeur à cette armée qui se traîne autour de lui. Je cite, et c'est toujours un bonheur de le faire, je cite Marcel Brion qui écrivait il y a une cinquantaine d'années des récits incroyables sur tous ces hauts faits d'armes. « Dès que Bayard eut pris le commandement, dit Marcel Brion, on eût dit qu'une âme nouvelle était entrée dans ce corps épuisé. La dignité de cette retraite, l'audace avec laquelle l'arrière-garde tenait tête aux plus rudes attaques, inspirèrent aux Espagnols un respect si grand que les chefs de l'armée impériale tinrent conseil pour savoir s'il fallait les poursuivre plus loin. » La seule présence de Bayard semblait à certains un gage de victoire et il fallut toute l'énergie de Pescara pour les persuader de continuer la lutte. Encore un effort, disait-il, et nous en viendrons à bout. Alors ça, c'est la vision des Espagnols. Dans les rangs français, on se rend bien compte que la retraite en question est compliquée. Les Basques de l'armée espagnole, qui sont donc commandés par Pescara, criblent les hommes de Bayard de coups d'arquebuse. Très important, cet arquebuse qui est en train de faire son entrée dans les batailles de l'Europe de l'époque. Les tirs d'arquebuse manquent rarement leur cible. Ils sont surtout à destination des chefs, parce qu'évidemment, on économise les coups. La plupart des chefs sont abattus dès le premier tir et les arquebusiers basques sont très doués pour fuir sitôt le coup donné. Au soir du 29 avril 24, Bayard et ses hommes campent dans les environs d'Ivrea, donc dans ce village que les chroniqueurs appellent Ravisingo. Bayard sait qu'il n'a quasiment plus de ressources, il est acculé par les Espagnols, il va faire lever le camp au milieu de la nuit d'ailleurs, sortir dans un endroit mieux caché. Bayard pense que les ennemis ne pourront pas le surprendre là où il a réussi à s'installer. Les soldats pour autant ne dorment que d'un œil, tout le monde se remet en route dès l'aube. Sauf qu'au lever du jour, Bayard et ses hommes sont surpris par l'adversaire. Les chevaux légers ont remplacé les cavaliers lourdement armés. Et puis, il y a ces arquebusiers basques, là, dont on n'arrive pas à se défaire. L'arrière-garde est enfoncée. Les Espagnols vont piller les fameux bagages. C'est très bien, ça, de faire main basse sur tout ce qu'on peut trouver. Et ils vont essayer notamment de prendre les deux pièces d'artillerie dont Bayard pouvait encore se targuer. Bayard qui s'enfonce dans la mêlée pour aller chercher les Espagnols. « Je vais avec vous », répond Jean de Chabannes. Chabannes, c'est vraiment le vieux camarade qui l'accompagne partout, sauf qu'il y a toujours ces arquebusiers basques qui sont là, qui veillent. Deux coups partent en même temps. Il y en a un qui touche Jean de Chabannes, qui meurt sur le coup, et l'autre atteint Bayard au côté. La balle va lui transpercer littéralement l'armure, va lui briser l'épine dorsale. « Jésus !» crie Bayard, qui empoigne l'arçon de sa selle pour ne pas tomber de cheval. Il va tirer son épée, celui qui est le dernier des grands chevaliers d'une longue histoire. Il lève cette épée, il baise la croix, c'est la garde, la poignée de son épée, si vous voulez. Il est là qui vacille sur sa selle. Il y a un dauphinois, un jeune homme, il s'appelle Jacques Geoffrey, qui sert fidèlement Bayard depuis des années et qui va l'aider à descendre, à couler, à tomber de son cheval. Bayard rouvre les yeux d'un geste. Il montre un chêne qui est là, pas loin. Et on comprend qu'il veut s'adosser à ce grand arbre, qu'on me mette en sorte que j'ai la face regardant les ennemis. Je ne leur ai jamais tourné le dos. Je ne veux pas commencer en finissant, car c'en est fait de moi, dit-il. Le chef des Lansquenets supplie Bayard de se coucher sur la civière que ses soldats ont exprès fabriquée. Ils ont pris des piques avec ce qu'ils ont trouvé. Bon, bref, laissez-moi, je vous prie, penser un peu à ma conscience, dit Bayard. M'ôter de là ne ferait qu'abréger cruellement ma vie, car dès que je remue, je sens toutes les douleurs qu'il est possible de sentir, hors la mort laquelle me prendra bientôt. Et Jacques Geoffrey est là, à côté, qui pleure. Il est à côté de son chef et Bayard lui sourit et lui caresse la tête. « Jacques, mon ami, dit-il, laisse ton deuil, va. C'est le vouloir de Dieu de m'ôter de ce monde. Par sa grâce, j'y suis longuement demeuré et j'y ai reçu plus de biens et honneurs que je n'en mérite. Tout le regret que j'ai à mourir, c'est que je n'ai pas aussi bien fait mon devoir que je le devais. C'était bien mon espérance, si j'avais pu plus longuement vécu, d'amender les fautes passées, mais puisqu'il en est ainsi, je supplie mon Créateur d'avoir, par son infinie miséricorde, pitié de ma pauvre âme. » Est-ce que Bayard a vraiment prononcé toutes ces paroles dans la douleur qui l'étreint? Ce n'est pas certain, mais les chroniqueurs nous le disent. Et parmi ces chroniqueurs, ceux qui vont immortaliser la saga de Bayard, bien entendu. Et parmi eux, Symphorien Champier, qui est un cousin de Bayard d'ailleurs, et qui a écrit une histoire de sa vie. Et puis son secrétaire, Jacques de Maille, qu'on appelle le loyal serviteur, et qui, en 1527, publiera la très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur de Bayard. La tempête de Zdeněk Fibich par l'Orchestre Symphonique National Tchèque sous la direction de Marek Štilec.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bayard aurait préféré ne pas tomber aux mains de ses ennemis. Il demande qu'on l'éloigne, mais les compagnons qui sont là autour comprennent bien que c'est trop tard. Ils refusent. Il n'y a pas de prêtre en plus. Bayard prie son maître d'hôtel d'écouter donc sa confession. Il va faire un testament qui sera confié au prévôt de Paris. Il lègue tout ce qu'il possède à son frère, Georges du Terrail, et il supplie ce frère de saluer pour lui le roi de France. « Dites-lui combien je regrette de n'avoir pu le servir plus longuement, et que j'en avais bien désir. Saluez aussi mes seigneurs les princes, tous mes seigneurs, mes compagnons, et généralement tous les gentilshommes du très honoré royaume de France, quand vous les verrez. » C'est lui, Bayard, qui sur le champ de la bataille de Marignan avait adoubé François Ier, l'avait fait chevalier, celui qui avait lu tant de romans de chevalerie. Et puis, il veut qu'on l'éloigne, on s'accroche comme on peut, on essaie de le hisser, mais ses compagnons ne peuvent rien faire. Ils s'éloignent, eux, et Geoffrey va rester seul auprès de lui. Il est épuisé, il ferme les yeux, et quand il les rouvre, ses yeux, il y a devant lui un chevalier extraordinaire avec une armure splendide, brillant de soies et de panaches. C'est le marquis de Pescara, le général espagnol qui est descendu de son cheval. Je devrais être fort aise de vous voir comme je vous vois, sachant bien qu'en ces guerres, l'empereur mon maître n'avait point de plus grand ni plus rude ennemi. Et cependant, quand je considère la grosse perte que fait aujourd'hui toute chevalerie, Dieu ne me soit jamais en aide s'il n'est vrai que je voudrais avoir donné la moitié de ce que je possède et qu'il en fût autrement, dit Pescara. Mais puisqu'à la mort il n'y a point de remède, je demande à celui qui nous a tous créés à sa ressemblance de vouloir retirer votre âme auprès de lui. Alors, bon, encore une fois, il est très probable que Pescara n'a pas pris le temps de faire un si beau discours, mais ça traduit en tout cas exactement l'état d'esprit général. Voici ce que nous dit Laurent Vissière. Fait prisonnier lors d'une désastreuse escarmouche à Guinegat en 1513, Bayard est présenté à l'empereur Maximilien et au roi d'Angleterre Henri VIII qui cherchait à envahir le royaume. Les deux monarques sont ravis de pouvoir deviser avec une telle légende vivante et Maximilien lui aurait même proposé d'entrer à son service car Bayard apparaît clairement à ses yeux comme le parangon de la chevalerie européenne. Voyez donc qu'il est possible en tout cas que devant lui, Pescara se soit au moins incliné. Il est prêt d'ailleurs à le soigner, mais Bayard refuse. Non pas qu'il pense que ce soit un piège, entre chevaliers on ne se piégerait pas, mais Bayard a compris, il sait, il sent qu'il va mourir, il veut mourir en homme de guerre. Alors Pescara fait dresser sa propre tente autour de l'arbre, il installe là un lit sur lequel on dépose Bayard qui ne veut pas recevoir les médecins qui vont pourtant se présenter pour le soigner. Non, non, il veut qu'on le laisse seul maintenant et pendant ce temps, Pescara place toute son armée en ordre de défilé, les commandements se placent d'une extrémité à l'autre des escadrons et on entend galoper les chevaux, rouler de tambours, sonner les trompettes, ce qui est en train de se passer. C'est une sorte de grand défilé pour rendre hommage aux chevaliers mourants.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bayard n'est toujours pas mort, il prie, semble-t-il. Le soir tombe. Dans le désastre de Pavie, voici ce qu'écrit Jean Giono. S'ensuit la scène que tout le monde connaît entre Bourbon et Bayard, où sont prononcées beaucoup de ces paroles qu'un échiné et laissé sans soin pendant 3 jours au pied d'un arbre ne prononce jamais. Mais l'histoire, surtout en France, a besoin de traîtres noblement corrigés. Le loyal serviteur y pourvoit. Oui, c'est une façon un peu ironique de Jean Giono de décrire cette entrevue plus ou moins réelle, plus ou moins légendaire, entre le chevalier Bayard en train de mourir et le connétable de Bourbon qui a trahi son roi. « Ah, capitaine Bayard, dit Bourbon, vous que j'ai toujours aimé pour votre grande prouesse et loyauté, j'ai grande pitié de vous voir en cet état. » À quoi Bayard aurait, je dis bien aurait répondu, « Monseigneur, je vous remercie. N'ayez pas pitié de moi qui meurs en homme de bien, servant mon roi, mais plutôt de vous qui portez les armes contre votre prince, votre patrie et votre foi. » Et finalement, Bayard va prier de nouveau. « Mon Dieu, tu l'as dit, je le sais, quiconque de bon cœur retournera vers toi, quelque pécheur qu'il soit, tu es toujours prêt à le recevoir en grâce et à lui pardonner. » Toutes ces paroles ont-elles été prononcées? Elles sont trop belles pour qu'on les évite. Bayard va finir par rendre l'âme en ce 30 avril 1524. Au moment de sa mort, on rend les armes, bien sûr, et le marquis de Pescara va faire escorter la dépouille jusqu'à la frontière française. On peut vraiment dire là qu'il s'agit d'une exception dans toute l'histoire des guerres.
Vous écoutez Radio Classique.
Sans peur et sans reproche, voilà une devise qui irait parfaitement bien à Christian Morin. Bonjour Christian.
Avec armure.
Avec armure en plus.
On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est trop dangereux.
Alors dans le home là, vous allez abîmer le micro.
Oui, vous avez raison. Alors cet après-midi, on va changer radicalement de sujet. Vous évoquiez mardi l'ancêtre des Rothschild. Eh bien, cet après-midi à 14h, vous allez nous parler de la parade des grosses fortunes américaines. Et il y en a.
Ah oui, oui, bien sûr. Ben, c'est ce qui peut-être fait le sommet, le couronnement de la culture américaine.
Aurez-vous assez d'une demi-heure?
Oh non.
Bon, on prolongera si, comme au football, il y aura des prolongations. À tout à l'heure, mon cher Franck.